Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Allez, ce soir, on parle des influenceurs dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Oui, leurs publications sur les réseaux sociaux sont suivies par des millions de personnes. Beaucoup pourtant ne les connaissent pas. Mais les influenceurs, c'est une réalité, montent en puissance pour le meilleur, mais également pour le pire. Quand il s'agit par exemple de faire l'apologie de la maigreur, comme cela est à nouveau massivement observé. Ou encore la promotion du masculinisme, avec certains comptes qui récemment ont fait parler d'eux jusqu'à être bannis. Notre question ce soir, est-ce que les influenceurs aujourd'hui ont trop de pouvoir? Quel est leur impact? Et qu'est-ce que cette montée en puissance dit de nos sociétés actuelles? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, tous trois à mes côtés en studio, Guarlan de Kervillère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur associé de marketing à l'école de commerce IESEC School of Management. Face à vous, Claire Decommer, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice adjointe de Rich, qui est une entreprise experte du marketing d'influence. Et vous avez coordonné l'étude 2025 intitulée « Les consommateurs et les créateurs de contenu ». Et à côté de vous, Gaëlle Prudencio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes influenceuse, blogueuse, certifiée dans le domaine de la mode grande taille. Votre compte sur Instagram est suivi par plus de 91 000 personnes. Et vous avez créé votre propre marque de mode qui s'appelle Ibilola. Et vous êtes aussi l'autrice de l'ouvrage « Fier d'être moi-même ». Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Donc, je disais, Claire Decommer, beaucoup de personnes ne connaissent pas les influenceurs. Alors, c'est peut-être la preuve qu'ils ne sont pas si influents. On y viendra. Mais c'est une réalité. Qu'est-ce qu'être influenceur aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut les définir? Qui sont les influenceurs aujourd'hui?
Oui, c'est une très bonne entrée en matière. Je pense que c'est important de définir le sujet. On a un petit peu le fantasme de l'influenceur ex-candidat de télé-réalité basé à Dubaï et qui a des millions d'abonnés. C'est évidemment pas la majorité et pas la réalité de ce que représente le secteur. On parle d'ailleurs aujourd'hui plutôt de créateurs de contenu. Il y en a 150 000 environ en France. Créateurs de contenu, pourquoi? Parce que c'est leur activité principale. À l'origine, c'est des personnes passionnées qui ont un hobby. Ça peut être la beauté, le bricolage, le do-it-yourself, le sport. Et ils vont partager, créer du contenu qu'ils vont partager sur des comptes sur les réseaux sociaux et commencer à fédérer, à construire une communauté de personnes qui vont les suivre pour les contenus qu'ils produisent. Et donc, c'est ça, les influenceurs.
Vous avez cité des exemples de contenu. Ce sont toujours des hobbies, des loisirs?
Très souvent, ça part d'un hobby, d'un loisir. Et ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle une ligne éditoriale, finalement, comme sur un média classique qui va se définir et se construire. Les sujets peuvent ensuite varier, s'étoffer, changer aussi avec des temps forts qu'on peut avoir dans sa vie. Quand quelqu'un devient parent, parfois, il y a la ligne éditoriale qui peut suivre un petit peu ces actualités-là. Mais oui, c'est tout part très souvent d'un sujet, d'une passion.
Et qui sont les influenceurs aujourd'hui? C'est-à-dire, tout le monde peut devenir un influenceur? C'est un métier.
Comme je le disais, c'est de la création de contenu avant tout. Donc, il faut savoir utiliser les codes des réseaux sociaux, savoir pour certains faire du montage, voire même de la production.
C'est un nouveau métier
qui
s'apprend sur le tas, je dirais.
Oui, absolument. On peut tenter de le devenir. En fait, qu'il faut, c'est réussir à fédérer des communautés autour d'un sujet. C'est peut-être ça le plus compliqué. Beaucoup de jeunes, je sais, aujourd'hui rêvent de le devenir, mais c'est pas si simple que ça. C'est une vraie compétence, un vrai métier.
Mais c'est pour ça que je vous demandais si c'était une fonction ou un métier ou une conséquence d'une situation. Je m'explique. Les deux comptes Instagram les plus suivis dans le monde sont ceux de Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Ce sont des joueurs de foot, ce ne sont pas des influenceurs.
Si tu peux me permettre, en fait...
Guarlan de Kervillère.
Oui, il faut vraiment différencier deux choses. Et en fait, il y a les célébrités qui ont construit effectivement leur reconnaissance et leur légitimité sur un sport, une activité, le fait d'être acteur ou effectivement joueur de foot, et qui ensuite diffusent effectivement des communications sur les réseaux sociaux, mais c'est pas en fait à partir de leur poste qu'ils ont pu émerger. Ça, c'est différent de ce dont parlait Claire, qui sont les créateurs de contenu, qui en fait créent leur notoriété et leur légitimité à partir du contenu qu'ils vont poster sur les réseaux sociaux. Et mais ça, c'est beaucoup plus difficile.
Et ces derniers influencent moins que les premiers.
Alors ça dépend. Bah, ça dépend parce que
encore
Nina,
une fois,
Nina,
les comptes les plus suivis sont
oui,
les stars du foot.
Mais alors en fait, on peut pas simplement réduire l'influence au nombre
d'accord.
d'abonnés. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'abonnés sans que cela, en fait, soit facteur forcément d'influence très forte. Si ce sont des personnes qui vous suivent parce que ça fait bien de s'abonner à quelqu'un de connu, c'est pas pour cela qu'en fait, on va forcément faire exactement les mêmes choses ou suivre leurs recommandations. Donc ça, c'est un point très important.
Alors, comment on mesure l'impact d'un influenceur ?
Alors, il y a plusieurs, critères et plusieurs indicateurs de performance. Mais en fait, l'engagement, le fait que quand vous postez quelque chose, c'est lu, c'est peut-être transmis à d'autres personnes et le temps que vous passez en fait à justement regarder le contenu, c'est très différent de simplement être un abonné d'un compte. Et Claire disait très justement, il y a 150 000 influenceurs, mais là-dedans, il y en a plutôt 3-4 000 qui sont effectivement des personnes qui postent régulièrement. Et dans ces plusieurs milliers, il faut réussir à émerger. Et on connaît, si vous demandez à quelqu'un dans la rue qui connaît comme influenceur, il est peut-être capable d'en citer 10, 15, allez, 20 sur 150 000.
Ouais.
Donc en fait, ça serait intéressant d'avoir le témoignage du parcours d'un influenceur,
évidemment.
Mais ça demande effectivement du talent pour créer des contenus qui attirent l'attention, parce que tout le monde peut prendre la parole aujourd'hui sur les réseaux sociaux, hein. On voit effectivement, et c'est un phénomène de société, aujourd'hui les jeunes s'informent non plus vraiment sur, en écoutant la télévision ou la radio, mais en regardant sur leur téléphone portable et en étant sur plusieurs plateformes. Donc en fait, on va dire que l'accès à l'information et l'accès aux médias, il est relativement facile. Créer son compte Instagram, le donner à ses amis et espérer que ses amis le passent à d'autres amis, c'est à la portée de tout le monde. C'est très démocratique, on va dire. Il n'y a pas besoin d'être, d'avoir un nom ou d'avoir fait des études particulières. Mais par contre, après, il faut réussir à percer.
Bien sûr. 150 000 influenceurs en France, vous disiez, et dans le monde. À quel point est-ce que le monde entier, évidemment, je vais vous donner la parole, hein, Gaëlle Prudencieux, dans quelques instants, on va avoir l'illustration d'une influenceuse, mais à quel point est-ce que les influenceurs influencent le monde ?
Oui, dans le monde, on en
Claire
a près de 20 millions avec des pays très, très, très avancés. Aux États-Unis, évidemment, qui étaient assez pionniers sur le marché, mais aussi en Asie, où les pratiques sont très différentes que ce qu'on a aujourd'hui en France. Mais c'est un phénomène qui est mondial, avec évidemment ces codes et ces pratiques différentes. Mais les créateurs de contenu aujourd'hui sont partout dans le monde et influencent partout dans le monde.
Et les contenus portent globalement sur des mêmes thématiques aux quatre coins du monde. On disait que c'était, je veux dire, c'est à quel point est-ce qu'on parle d'abord de loisirs, de hobbies, ce qu'on disait, et peut-être après de diplomatie ou de géopolitique.
Alors les sujets sont très très hétéroclites.
Ouais.
Les sujets géopolitiques, on a beaucoup d'influenceurs de vulgarisation de contenu, de culture générale, de géopolitique, tout autant que un bricoleur qui va expliquer comment on répare une étagère, on fait un trou dans le mur, tout autant que une personne qui va faire des tutos de maquillage. Les sujets sont variés, il y en a pour tout le monde, et c'est ça qui est aussi hyper intéressant. C'est que, en effet, les créateurs de contenu fédèrent leur communauté autour de leur passion, de leur hobby principal, et les personnes, les communautés qui vont et qui veulent chercher de l'information sur les réseaux sociaux vont forcément y trouver quelque chose de cohérent et de qualité.
C'est là où la taille de la communauté, en fait, n'est pas forcément le seul critère, parce que si on est sur un sujet de niche, forcément, on est peut-être sur une petite communauté qui s'intéresse, qui a la même passion, mais avec un fort, très fort taux, justement, d'engagement et de capacité à influencer une communauté très spécialisée.
Alors, Gaëlle Prudencieux, plus de 91 000 followers sur Instagram. Comment en êtes-vous arrivée à vous retrouver influenceuse ?
Ah, je me suis retrouvée à devenir influenceuse parce que j'ai créé un blog il y a presque 18 ans aujourd'hui. Donc, je fais partie des vétérans de l'influence, on va dire. Et au départ, c'était une question de mal-être, que j'avais besoin de partager. J'avais besoin de m'exprimer et j'ai trouvé ça, l'idée de créer une sorte de journal intime public. Et au fur et à mesure, j'ai fédéré une communauté autour de ce sujet qui était l'acceptation de soi et comment est-ce que j'arrivais à m'accepter, notamment grâce à la mode. Et aujourd'hui, quand on parle d'influence et que vous demandez qui est-ce qui influence, qu'est-ce que c'est d'être influenceur, je pense qu'il y a une question d'impact, d'impact positif sur les personnes qui nous suivent, par exemple sur des questions aujourd'hui de body positive, de grossophobie, d'acceptation de soi, je vais quand même souvent être la première personne qu'on va contacter, tout simplement parce que je fais figure d'autorité sur ces domaines-là. Mmh. Et s'il y a une question de beauté, ce sera tel ou tel autre influenceur qui va être contacté. Et souvent, quand on parle d'influenceur, on va avoir cette vision négative de la question, parce qu'on va parler, je ne sais pas, des codes promo, du mode de vie, ouais, etc. Mais en fait, il y a autant d'influenceurs, de types d'influence que de personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux.
Oui, on pourrait poser la question, est-ce que les influenceurs sont utiles ?
Absolument, on peut se poser la question et oui, ouais. clairement. Oui.
Parce que vous avez un message anti-grossophobie notamment. Comment ce message, vous le portez ? Par quel contenu ? Quel type de contenu ?
Alors, le type de contenu, c'est déjà, en fait, je suis militante, d'abord et avant tout, c'est-à-dire que je vais dénoncer. Quand il y a de la grossophobie en milieu médical, je vais dénoncer cela, avoir à apporter des témoignages. Là, par exemple, il y a eu cette mode du skinny top qui est arrivée sur TikTok.
Donc, prône l'ultra-maigreur.
Voilà, exactement. Ouais. Et qui va entraîner, en fait, la promotion des troubles du comportement alimentaire. Ouais. Eh bien, moi, j'ai pris la parole sur TikTok, qui est pourtant un réseau sur lequel je ne suis pas très active, mais sur lequel il était important que je puisse réussir à atteindre la communauté qui avait besoin d'entendre mon message d'acceptation de soi. Et sur TikTok, je ne suis pas partie en me disant « je vais dénoncer, oui, c'est pas bien, le skinny talk, etc. » Non, ce que j'ai proposé, c'est juste un message en disant « je pense à vous, toutes les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, qui sont présentes sur les réseaux sociaux aujourd'hui et qui doivent supporter ce type de message-là, qui se battent au quotidien contre des compulsions alimentaires, qui ont une santé mentale qui est très fragile, eh bien, je pense à vous et sachez que vous n'êtes pas seul. Et là, mon influence a un impact qui est complètement positif sur ces personnes.
Et c'est louable et c'est précieux, je dirais, mais que pèse cette parole face au... Alors, le mois dernier, c'était 58 000 publications Skinny Talk sur Instagram.
Cette parole, elle va peser dans la mesure où, eh bien, on a eu cette pétition-là qui a été lancée sur les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux. C'était des personnels soignants qui, en fait, au départ, viennent parler de leur métier de diététicien, de nutritionniste, etc. Et qui, aujourd'hui, deviennent influenceurs et qui lancent une pétition. Et le hashtag SkinnyTok est retiré, entre guillemets, on va dire, de la plateforme TikTok.
Il a été retiré.
Voilà. Donc, à un moment donné, l'impact, il est là.
Impact, d'accord. Oui. Mais malgré tout, ce qui émerge, Claire de Commer, sur Instagram, sur TikTok, c'est davantage Skinny Talk que des posts anti-grossophobie.
Justement, non. Moi, j'ai regardé, on a un outil qui permet de comptabiliser en fait, les contenus qui sont publiés en fonction des hashtags qu'ils intègrent. Sur la même période, il y a 3 à 4 fois plus de contenus qui parlaient de body positivisme, donc d'acceptation de soi, qui ont été publiés. Et c'est, je trouve que c'est ça un petit peu le... Il y a évidemment des dérives via certains influenceurs, via les réseaux sociaux, mais il y a aussi énormément d'actions louables et saines qui se passent dans ce temps-là, et c'est un petit peu moins là-dessus qu'on met l'accent, mais c'est important de le rappeler.
Mais c'est un effet loupe alors ? Pourquoi on parle autant de skinny talk ? Pourquoi est-ce que...
C'est avéré et c'est un comportement dangereux, donc forcément c'est important de mettre le doigt dessus pour que justement ce soit dénoncé, pour que justement ce hashtag soit supprimé de TikTok, et ça a été le cas. En revanche, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Derrière ces dérives qui sont néfastes, évidemment, il y a énormément d'actions plus normales, tout simplement, et saines, qui ont lieu et qui rythment le quotidien des Français. Et les créateurs sont suivis. Vous parliez tout à l'heure de l'utilité des créateurs. Nous, dans l'étude qu'on a menée auprès des Français au début de cette année, il y a trois grandes catégories pour lesquelles les Français disent suivre des créateurs de contenu. C'est pour le divertissement, l'information et l'inspiration. Donc on voit que c'est hyper complet, en fait. Ouais. On va sur les réseaux parce qu'on se sent proche de certaines personnes. Ils véhiculent des images plutôt positives. D'ailleurs, les sentiments à leur égard sont très positifs. La sympathie, l'admiration, la confiance. Donc au-delà de ces quelques dérives qui existent et qu'il faut absolument combattre, évidemment, il y a énormément de bénéfices que peuvent apporter les créateurs sur les réseaux.
Guaralan de Kervillers, est-ce que vous êtes d'accord ? Quelques dérives, nous dit Claire Decommer. Il y a seulement quelques dérives aujourd'hui de la part des influenceurs sur les réseaux sociaux ?
Alors, je pense qu'il y a deux points. Il y a le premier, effectivement, qui est le fait que, comme on disait, comme tout le monde peut prendre la parole sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de cadre et il va falloir, et c'est ce qui est en train de se mettre en place, de plus en plus réguler pour que les prises de parole néfastes puissent effectivement être de plus en plus interdites. Donc ça, c'est vrai que ce sont des dérives et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il va y avoir, comme il y a un peu des peurs et des appréhensions sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, un peu plus de focus là-dessus, alors qu'effectivement, il y a des éléments positifs. Un point sur lequel je voulais revenir aussi, quand vous parliez de l'utilité en fait, des influenceurs, c'est notamment toute la partie, et qui pose aussi beaucoup de questions, la partie des collaborations avec les marques. Parce qu'effectivement, aussi dans les retours, il y a le fait que les influenceurs, finalement, sont là pour faire de la promotion.
Je vais donner juste un chiffre en écho à ce que vous dites. Un demi-milliard d'euros l'an dernier dépensé dans le marketing d'influence par les annonceurs.
Voilà.
Est-ce que les influenceurs sont d'abord des vendeurs ?
Donc ça pose question. Après, je pense qu'il y a plusieurs perspectives en fait, quand même à avoir en tête. La première, c'est que par rapport à une communication qui ne passe pas par un influenceur, c'est donc la marque qui prend la parole ou qui prend la parole via un ambassadeur qui va en fait dire que le produit ou le service a certains bénéfices sans forcément les avoir testés lui-même. Alors que l'idée quand même pour un influenceur, c'est qu'il puisse lui-même expérimenter un produit ou un service avant d'en parler. Alors on peut se dire mais il va être finalement un peu sous pression parce que forcément si la marque le rémunère, il peut pas non plus dire que le produit est catastrophique. Ben, il a quand même cette capacité de choisir et de dire bah non, en fait cette collaboration, je suis désolée mais je pense pas que ça va être possible parce que je ne soutiens pas cette marque, parce que les valeurs ne sont pas alignées avec les miennes, parce que c'est pas le type de produit que j'utilise ou avec lesquels sur lesquels j'ai quelque chose de positif à dire, donc je préfère ne pas collaborer. Donc ça, c'est quand même important de voir que finalement en termes aussi d'utilité et de valeur ajoutée, il y a quand même ce prisme. Et que on parlait de passion et d'intérêt, ben un influenceur qui a une passion, il va s'informer, comme il va avoir une communauté qui va aussi être passionnée, il va falloir qu'il ait de la valeur ajoutée. Donc il va chercher justement à connaître les nouveautés, à peut-être les tester pour avoir un point de vue éclairé par rapport à sa communauté. Alors après, il y a bien sûr des dérives. Et effectivement, des influenceurs qui vont malheureusement parfois accepter des collaborations parce qu'ils ont peut-être besoin au quotidien de soutenir leurs revenus avec des marques qui peut-être proposent des produits qui ne sont pas bons ou qui ont des limites qui ne sont pas suffisamment mises en avant. Et parfois aussi de façon non transparente.
Mais est-ce que ce sont ça, pour vous, les principales dérives donc, finalement, les influenceurs dans le domaine du marketing, ou est-ce que ce n'est pas l'idéologie, finalement, véhiculée par certains influenceurs ? Si, par exemple, on parle autant aujourd'hui du masculinisme, est-ce que ça ne vient pas des influenceurs ?
De certains.
Alors,
certains
influenceurs.
Oui, et puis en fait, on peut se poser la question.
Est-ce qu'ils n'ont pas pénétré l'opinion publique ?
Mais on peut se poser quand même la question du chat et de la souris. Du chat et de la souris. C'est-à-dire, ils sont quand même miroirs aussi de la société. C'est-à-dire que les influenceurs, ils vont effectivement être reconnus comme étant un peu des modèles, comme étant des personnes avec lesquelles les jeunes souhaitent s'identifier. Donc, c'est vrai que leurs paroles ont du poids. Mais en même temps, ils sont aussi le reflet d'une société. Et si leur discours, en fait, est complètement à l'opposé des valeurs et des représentations de la société. Mmh. Finalement, ils ne vont pas émerger. Si on parle, par exemple, aussi de l'environnement, on parle beaucoup quand même de tout ce qui se passe autour de la fast fashion. Clairement, il y a une résistance de la part quand même des consommateurs sur le fait de consommer de façon non modérée des produits à bas coût qui sont mauvais pour l'environnement. Quelque part, ils vont les jeunes ne vont pas forcément s'identifier à des influenceurs qui ont des comportements de fast fashion.
Je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais juste, quand je parlais du masculinisme, Adrien Laurent, ça c'est un homme qui a fait beaucoup parler, c'est un star de la télé-réalité, devenu acteur porno, apôtre du masculinisme, 1,8 million d'abonnés.
Oui, et c'est là pour moi les dérives, parce que Gaëlle les Prudentio. Dérives ne sont pas particulièrement sur la promotion de telle ou telle marque, parce qu'en réalité ça reste un métier, c'est de la publicité, c'est du marketing, donc ça fait partie du job. Après, tel ou tel influenceur décide de parler de tel ou tel produit, ça c'est son problème. Moi, là où j'ai un problème, c'est effectivement les dérives sociétales avec des profils comme ce jeune homme. Oui, 1,8 million, c'est énorme. Et c'est pas seulement 1,8 million sur les réseaux, mais c'est aussi les copains des copains de ceux qui regardent et qui vont participer à des lives, etc. avec ce type d'influenceurs-là. Et c'est là qu'il est primordial de pouvoir réguler auprès de l'État, de pouvoir réguler l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes.
On va en parler dans la deuxième partie.
Le débat du jour, Romain Ozoui.
Débat concernant les influenceurs ce soir. Est-ce qu'ils ont trop de pouvoir? C'est la question qu'on pose. Et évidemment, on a été alerté par cette vague et ce retour de l'apologie de la maigreur sur les réseaux sociaux. Skinny Talk. Hashtag SkinnyTok, ça c'est sur TikTok. Il y a eu des dizaines de millions de milliers de publications le mois dernier. Mes trois invités sont Gaëlle Prudentio, que l'on entendait, qui est blogueuse et influenceuse certifiée dans le domaine de la mode grande taille. Compte Instagram suivi par plus de 91 000 personnes. Ibi Lola, c'est la marque de mode que vous avez créée. Et votre ouvrage s'intitule « Fier d'être moi-même ». Claire de Commer, directrice adjointe de Rich, entreprise experte du marketing d'influence, coordinatrice de l'étude 2025, les consommateurs et les créateurs de contenu, et Guarlane de Kerviller, professeur associé de marketing à l'école de commerce ISEC School of Management. Ben voilà, maintenant, la question, c'est face à, aux dérives qu'on a pointées, même si vous les minorez, ou en tout cas, vous ne les amplifiez pas, on va dire, ce phénomène-là. Et en ça, peut-être, ça répond à la question, est-ce qu'ils ont trop de pouvoir? Mais par rapport à ces dérives, la question de la régulation, et il faut réguler, vous avez dit Guarlane de Kerviller, Gaëlle Prudentio également, mais comment réguler?
Il y a une loi qui a été publiée en juin 2023, où justement le gouvernement a pris à bras-le-corps, on va dire, ce sujet pour encadrer. Parce qu'effectivement, le souci, c'est que déjà la définition du terme d'influenceur était relativement floue. Ouais. Donc déjà poser un cadre à de quoi on parle quand on parle d'influenceur, qui sont ces personnes. Ensuite, quelle est son activité et quels sont des dispositions générales et des choses qui sont interdites.
Qu'est-ce qui est interdit, par exemple?
Alors, on n'a pas le droit, par exemple, de justement faire la promotion de produits financiers. Ouais. On n'a pas le droit de mettre des enfants, par exemple, en scène. On n'a pas le droit de parler, par exemple, de chirurgie esthétique, de faire l'apologie de la chirurgie esthétique. Donc, en fait, il y a un certain nombre de choses. Parce que c'est des comportements à risque.
Mais alors, le masculinisme, on le tolère, mais pas la chirurgie esthétique.
Alors, je pense que, en fait, ça va prendre du temps, mais je pense qu'effectivement, l'idée, c'est que on va pouvoir progressivement interdire des promotions d'activités qui sont clairement à risque et aller vers des communications qui sont plus vertueuses. Et on a aussi, des auto-régulations où les influenceurs eux-mêmes, en fait, vont vers de la certification. Je pense qu'effectivement, vous allez en parler. Ouais. Mais ça me semble très important que les influenceurs qui ont des comportements vertueux, justement, puissent se différencier et montrer qu'ils ne font pas la même chose que des acteurs de télé-réalité.
Ouais. Et à l'inverse, ceux qui ont des comportements entre guillemets vicieux, enfin dans le sens contraire du vertueux, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement supprimer les comptes? Ça, c'est ce qu'a décidé Aurore Berger, par exemple, la ministre à l'égalité femmes-hommes, concernant l'homme qu'on évoquait, Adrien Laurent, qui a vu son compte TikTok être supprimée. Oui. Est-ce que ça, c'est des gouttes d'eau ou est-ce que ce sont des phénomènes qui sont importants aujourd'hui? Je vois juste Claire de Commer qui lève la main et après je vous donnerai la parole, Gaëlle Prudencio.
Je veux préciser, il y a deux points distincts. La loi dont on vient de parler encadre les pratiques d'influence commerciale.
Bien sûr.
C'est-à-dire les collaborations entre un créateur de contenu et une marque. Et c'est dans ce cadre-là qu'on n'a pas le droit de faire la promotion d'un chirurgien esthétique, par exemple.
Bien sûr.
Une personne qui décide de parler spontanément de chirurgie esthétique, ça, on a le droit. En revanche, si ça vient à avoir des propos trop extrêmes, là, c'est plutôt le rôle des plateformes, des réseaux sociaux, de réguler ces contenus-là. Et c'est ça qui fait probablement un peu défaut encore aujourd'hui et qui fait que des hashtags comme Skinny Talk ont pu pulluler sur des milliers de contenus.
Mais, parce que le trop de pouvoir des influenceurs, c'est davantage sur l'idéologie qui est portée que sur peut-être des enjeux commerciaux ou financiers.
Absolument, puisque
les conséquences, elles sont sociétales.
Absolument, oui.
Oui, et puis il y a la question de qui est responsable.
Oui, et la réalité est qu'en fait, la société va beaucoup trop vite par rapport aux lois qui sont votées. La loi, là, dont on parlait, date de 2023, mais entre-temps, les masculinistes ont augmenté fortement sur les réseaux sociaux. Et en fait, qu'on supprime le compte TikTok de ce jeune homme, ça ne change pas grand-chose, parce qu'il est présent ailleurs, il est présent sur d'autres plateformes. Et quand on voit qu'au premier rang de l'investiture de Trump, il y avait Mark Zuckerberg, qui est président de Meta, et qui a quand même une idéologie qui s'approche plus du masculinisme et qui aurait déclaré qu'aujourd'hui, on n'allait plus forcément modérer les commentaires sur Instagram, Facebook, que Elon Musk laisse tout faire sur Twitter. Oui, c'est bien évidemment les plateformes qu'on doit pouvoir réguler, en fait. C'est pas l'humain derrière. C'est vraiment tout ce groupe et ces idéologies qui sont en train de monter grâce à ces réseaux-là.
Finalement, les influenceurs d'aujourd'hui sont à l'image de la société.
Oui, ça, clairement. Et puis, l'influenceur amplifie, en fait. Ouais. Amplifie les marques, amplifie aussi les modes de vie.
Guarlaine de Carvilla.
Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est que à l'ère des réseaux sociaux, il y a effectivement ce qu'on appelle l'effet mégaphone, c'est-à-dire que en fait, une personne peut avoir une audience très forte et peut porter un message négatif de façon large. Et donc, en fait, c'est plus simplement une personne isolée qui a un message violent ou qui peut être vraiment très même risqué. Mais en fait, avec la prise de parole sur les réseaux sociaux, il a une forte visibilité. Et c'est effectivement, ça pose la question du canal de communication et dans quelle mesure le canal de communication est aussi partie prenante et responsable du type de message qui est diffusé sur ce canal.
Mais
ça, c'est un vrai sujet. Hein.
On en vient à la conclusion de notre débat, puisqu'il nous reste moins d'une minute. Finalement, pour vous, ils n'ont pas trop de pouvoir, j'ai l'impression, les influenceurs. Ou en tout cas, leur pouvoir est maîtrisé. Et est-ce que, Claire de Commer, je me tourne vers vous, finalement, ce qu'évoque Gaëlle Prudencio est à de quoi être inquiétant évoquant la régulation évidemment, ou en tout cas l'apôtre de la non-régulation des réseaux sociaux aujourd'hui qui domine.
Je pense qu'il y a une réelle responsabilité des réseaux et des plateformes et que c'est un secteur qui se professionnalise et se structure depuis des années maintenant. Notamment, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais via l'UMIC, qui est l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, qui est une super fédération professionnelle qui regroupe tous les métiers de la créateur économie. Donc je pense que ça va évidemment dans le bon sens et que c'est aux plateformes maintenant de prendre leurs responsabilités et de faire en sorte que les dérives ne soient plus acceptées sur leur canot.
Eh ben, les dérives, en tout cas, on a bien compris qu'elles ne sont pas majoritaires, selon vous, et que les influenceurs n'ont pas trop de pouvoir pour le moment. En tout cas, ce pouvoir est maîtrisé. Merci beaucoup à vous trois, Claire de Commer, Gaëlle Prudencio et Guarlaine de Kervillère. Et puis merci à Florence Ponce, évidemment, à la préparation de ce débat, et Claude Battista à sa réalisation.
RFI.
Et dans une minute, ce sera le grand journal du soir avec ce soir Clotilde Dumay. Et puis 30 minutes, ce sera Afrique Soir. 30 minutes plus tard, Zéphirin Quadio déjà à mes côtés. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
On va jeter un coup d'œil au programme de ce soir avec au Burundi. Aujourd'hui, c'est un jour de vote.
Oui, les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés, leurs conseillers communaux pour les 5 prochaines années. Les autorités parlent d'élections libres qui se sont déroulées dans le calme. L'opposition dénonce des irrégularités massives dans un double scrutin sans véritable enjeu électoral. Et puis en République démocratique du Congo, c'est une rencontre importante pour la vie politique qui se tient actuellement. Le président Félix Tshisekedi s'entretient avec l'opposant Martin Fayoulou. Nous irons aussi au Sénégal où des squelettes et des balles ont été exhumés par des archéologues dans le cimetière de Tiaroy, près de Dakar, cimetière où des tirailleurs africains massacrés par l'armée française en 1944 sont présumés avoir été inhumés.
Eh bien merci Zéphirin Quadio, on vous retrouve dans 30 minutes. Ne bougez